Vous écoutez toujours Radio Éthique, voici le reportage de Pascal Marcaggi.
Quoi de plus banal que le thym, que cette plante aromatique qui fait partie du bouquet garni de nos cuisines et a aussi des vertus médicinales? Eh bien, figurez-vous que le thym, tellement emblématique de nos plats mijotés, l'est aussi des laboratoires, ou plus exactement des travaux du muséum. Au point que la très prestigieuse Société américaine d'écologie vient de distinguer un article paru au mois de février dernier, article sur la modification du polymorphisme génétique chez le thym, modification liée au changement climatique. La Société américaine d'écologie a distingué cet article pour sa contribution exceptionnelle en lui décernant le prix William Skinner Cooper. Mais avant toute chose, qu'est-ce que le polymorphisme génétique? Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum national d'histoire naturelle à l'AgroParisTech et à Sciences Po Paris et chercheur au sein du laboratoire ISEB, Institut de systématique, évolution et biodiversité.
Le thym est une plante dont on sait tous qu'elle a un goût particulier, on sait le reconnaître. On s'en sert pour la cuisine. Et en fait, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'il y en a plusieurs formes qui ont des goûts différents. Ça a été découvert dans les années 70. C'est ce qu'on appelle un polymorphisme. Un polymorphisme, c'est le fait que dans une espèce, différents individus soient différents. Par exemple, il y a des blonds et des bruns, des gens aux yeux bleus, aux yeux sombres, des gens qui ont des groupes sanguins A, B et O. Tout ça, c'est des polymorphismes chez les humains. Et bien, chez le thym, il y a un polymorphisme pour le produit qui lui donne son odeur, qui sont des terpènes. Donc, l'essence de thym est polymorphe, c'est-à-dire qu'il y a des gènes différents. Dans la même espèce, hein, les gens, tout de suite, dès qu'on a trouvé qu'il y avait différentes formes, on a cru qu'on allait trouver plusieurs espèces. Pas du tout, c'est la même espèce, mais simplement, c'est des génotypes différents dans cette espèce qui donnent des odeurs différentes. Voilà, ça c'est ce que c'est qu'un polymorphisme.
Le polymorphisme génétique, c'est le fait que les génomes, l'ensemble des gènes au sein d'une même espèce, sont différentes d'un individu à l'autre. Quant aux terpènes, c'est une classe d'hydrocarbures produits par les plantes. On pense par exemple à l'essence de térébenthine. Mais revenons à notre thym, étudié à Saint-Martin-de-Londres, dans la région de Montpellier.
Ce polymorphisme, eh bien, il se distribue dans l'espace, et ça, c'est ce qu'on avait étudié il y a une quarantaine d'années. On a montré que, eh bien, certaines formes chimiques se trouvaient à certains endroits, certaines formes chimiques ailleurs, et on a étudié en détail une zone située au nord de Montpellier, qui s'appelle le bassin de Saint-Martin-de-Londres. C'est un endroit assez particulier, parce que c'est un ancien lac tertiaire qui s'est séché et qui, du coup, n'a pas de communication, en quelque sorte, avec l'extérieur. C'est-à-dire que si jamais en hiver de l'air froid s'y accumule, eh bien, cet air froid va de plus en plus s'y accumuler, et il faisait couramment moins 20 degrés l'hiver dans ce bassin, dans une zone qui est par ailleurs plutôt chaude à côté de Montpellier. Voilà, donc on a étudié en détail cette région-là parce que les 6 formes chimiques s'y trouvaient, on a étudié leur distribution. On a trouvé qu'il y avait certaines formes qui étaient systématiquement sur le plateau et d'autres systématiquement dans le bassin. Donc ça laissait penser qu'il y avait une différence écologique entre le plateau et le bassin qui faisait que certaines formes étaient mieux dans le bassin et d'autres sur le plateau. Et en fait, on a fait des études pour montrer qu'effectivement, premièrement, les insectes ou les escargots qui mangent le thym, eh bien, préféraient certaines formes. Donc ça exerçait une certaine sélection sur ces gènes. Mais on n'a pas pu voir exactement qu'est-ce qui expliquait la différence entre le plateau et le bassin, parce qu'il y avait des tas de facteurs qui pouvaient jouer. Et en reprenant cette distribution aujourd'hui, donc le changement qu'on observe aujourd'hui, c'est pas un changement génétique global de l'espèce, c'est le fait que les gènes de ce polymorphisme, eh bien, ne sont plus au même endroit. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les formes résistantes au froid dans le bassin sont en train de disparaître, et le bassin est envahi par les formes du plateau qui, elles, ne résistent pas au froid. Je vous ai dit que dans le bassin, il pouvait faire très froid. Eh bien, du fait qu'il pouvait faire très froid, eh bien, certaines formes qui résistaient à des températures très basses étaient sélectionnées par la sélection naturelle. Comme depuis les années 70, eh bien, il n'y a plus jamais eu des températures aussi basses que ça, eh bien, il n'y a plus de sélection en faveur de ces formes résistantes au froid, et du coup, les formes non résistantes au froid, mais mieux protégées contre les herbivores, celles qui étaient sur le plateau, sont en train d'envahir le bassin. Donc on assiste, à l'échelle d'une surface de l'ordre de la centaine de kilomètres carrés, à un changement génétique, comme si jamais on voyait chez les humains une région dans laquelle les blonds sont en train de disparaître au profit des bruns ou l'inverse, hein, sous l'action de la sélection naturelle. Et sous l'action de quelle sélection naturelle? Eh bien, la sélection naturelle provoquée par les changements climatiques.
Du thym résistant au froid, cela ne sert plus à rien quand il a cessé de faire froid. Voilà bien Dame Nature frappée au sceau du bon sens, mais allez savoir si cela est véritablement bon signe.
Oh, en science, les concepts de bon et mauvais ne sont pas des concepts scientifiques. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que les espèces se transforment de façon génétiquement, de façon macroscopique, sous l'action des changements climatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, les espèces sont capables, bien sûr, de s'adapter aux changements d'environnement provoqués par ces changements climatiques, mais aussi que dans cette zone-là, ça aboutit à une perte de variabilité. Alors évidemment, par exemple, pour la pharmacopée, ça peut être, si jamais les formes résistantes au froid disparaissaient complètement, ça serait embêtant, parce qu'il y en a qui peuvent être utiles sur le plan pharmaceutique, il y en a, ou même sur le plan culinaire. Là-dedans, il y a un thym qu'on appelle le thym citron, que beaucoup de gens cultivent parce qu'ils l'aiment bien, où ces gènes-là viennent de ce type d'environnement. On peut imaginer donc que si jamais le réchauffement climatique continue, eh bien, les formes résistantes au froid vont disparaître de toutes les zones méridionales. Et alors la question, c'est de savoir si le thym arrivera à remonter plus haut, du coup, dans le massif central, au-delà des Cévennes, dans des zones encore plus froides dans lesquelles seront sélectionnées ces formes-là. Là, on est en train de revoir non plus simplement le problème du thym, mais le problème de toutes les espèces soumises au changement climatique. Est-ce que ces espèces pourront s'adapter à la bonne vitesse? Est-ce qu'elles pourront bouger, étant donné les systèmes de gestion des paysages que nous avons? Évidemment, le thym, on peut imaginer qu'il remonte dans le massif central, il y aura toujours suffisamment de zones à peu près sauvages dans le massif central, mais en revanche, on voit bien que des plantes plus au nord vont pouvoir être bloquées par les zones de grande culture, et que si une plante, pour survivre, a besoin de migrer vers le nord, eh bien, elle peut très bien ne pas trouver le moindre habitat disponible parce que tout est cultivé ou urbain. Donc effectivement, ce qu'on voit à travers ce genre d'études, c'est qu'il y a un besoin pour les espèces d'évoluer non seulement en termes génétiques, mais en termes de distribution géographique, et que ça, c'est un challenge assez majeur pour l'avenir. Si on veut que les formes vivantes qui cohabitent avec nous survivent au changement climatique, il va falloir les laisser se déplacer.
Puisque sélection naturelle il y a sous l'effet du changement climatique, tant qu'à faire, pourquoi ne pas se mettre sous le coude, sous serre, les espèces sauvages qui nous intéressent, par exemple pour la pharmacopée?
Alors, ça nous entraînerait un peu loin d'ici de ça, mais je voudrais vous dire que je pense que la mise sous serre, c'est carrément pas une solution à plein de points de vue. D'abord parce que le monde vivant est pas un monde stable. On a une espèce de vision biblique d'un monde créé une fois pour toutes tel qu'il est, et puis qu'il s'agirait d'essayer de conserver plus ou moins comme ça. C'est pas du tout comme ça que ça marche. On sait depuis Darwin que le monde vivant est un monde en évolution permanente, que la biodiversité, c'est pas un état, c'est une dynamique, c'est un ensemble d'éléments qui sont constamment en train de se transformer, dont certaines lignées s'éteignent, d'autres se transforment, divergent, etc. Prétendre qu'on va la conserver telle qu'elle, c'est ne rien avoir compris au mécanisme même de la biodiversité. Je voudrais vous dire que, vous voyez, la biodiversité, je vous dis que c'est une dynamique, c'est un équilibre dynamique. Imaginez, bon, beaucoup de gens ont vu cette image d'une espèce d'arbre comme ça, buissonnant, qui décrit l'histoire des formes vivantes. Constamment, de nouvelles branches apparaissent, puis elles s'écartent des autres, et puis certaines s'éteignent. Vous voyez qu'il y a un équilibre dynamique dans le système. Un équilibre dynamique, c'est pas l'équilibre d'une statue qui est posé sur son socle et qui n'a pas bougé. C'est l'équilibre d'un vélo. Un vélo, c'est en équilibre parce que ça avance. Et la biodiversité, l'équilibre de la biodiversité, c'est pareil. Elle est en équilibre parce que les extinctions et les divergences entre lignées se compensent. Ce à quoi on assiste actuellement, c'est à une perte de cet équilibre. C'est-à-dire que les extinctions sont devenues infiniment plus grandes que les divergences entre lignées. Mais la solution, si vous avez un vélo qui est en train de se casser la figure, la solution, c'est pas de l'arrêter. C'est au contraire de lui redonner un coup d'accélérateur pour qu'il reparte. Donc, un vélo, c'est un équilibre dynamique. Ça se maintient parce qu'il y a des forces contraires qui vont se maintenir grâce au fait qu'il avance. Si vous l'arrêtez, il tombe. La biodiversité, c'est la même chose. Croire qu'on va sauver une dynamique en l'arrêtant, eh ben ça, c'est une erreur, et malheureusement, pas mal de gens la commettent.
Ans, c'est long pour faire un courbouillon, c'est pas mal pour mener à bien des travaux scientifiques, ce qui semble de plus en plus rare, alors que le réchauffement climatique est quant à lui plus qu'avéré.
À l'échelle de l'évolution, évidemment, 40 ans, c'est rien. Quand on a, au début de la théorie de l'évolution, on pensait que les phénomènes évolutifs étaient toujours beaucoup plus longs que ça. Il y a eu une histoire très célèbre, dont beaucoup de vos auditeurs auront entendu parler, parce que maintenant c'est enseigné à tous les niveaux, de papillons en Angleterre, qui étaient des papillons mouchetés, et puis qui, dans les zones polluées, on a vu que progressivement, il y avait de plus en plus de papillons noirs, et on a pu montrer que c'était de la sélection qui favorisait les papillons noirs dans ces zones. Et ça s'est fait sur quelques dizaines d'années. C'était la première fois, donc il y a à peu près un siècle, qu'on a observé une évolution à cette vitesse-là. Le thym, bah oui, on retrouve quelque chose d'assez comparable en termes de vitesse. C'est rapide à l'échelle de l'évolution. Évidemment, pour nous, chercheurs, en revanche, c'est terriblement lent. Une des choses qui fait que notre recherche est un peu spéciale, c'est que c'est bien rare d'avoir un laboratoire qui arrive à suivre, on n'a pas suivi tous les ans pendant 40 ans, mais à garder un savoir-faire qui permet permet de voir ce qui s'est passé sur 40 ans. C'est-à-dire qu'on avait dans le laboratoire toutes les données sur les stations, etc. On a pu retourner 40 ans plus tard et voir que ça avait changé. Ça, 40 ans, c'est très long dans la durée de vie d'un laboratoire. Normalement, les laboratoires disparaissent plus vite que ça et du coup, on n'arrive pas à faire des suivis aussi long terme que ça. C'est un peu malheureux, c'est une des difficultés. On a besoin, si on veut voir les changements de la planète, d'avoir des travaux à long terme. Et ça, c'est quelque chose que les systèmes de recherche ne savent pas financer. Comment voulez-vous qu'on vous finance un truc en disant, bah oui, dans une cinquantaine d'années, il y a des chances qu'on ait un résultat extraordinaire. Donc, vous voyez, 40 ans, c'est long pour le temps de la recherche, c'est court pour le temps de l'évolution. Pour le temps de l'adaptation, bah, je pense que c'est ce qui se passe quand il y a vraiment des forces sélectives importantes. Un peu, effectivement, dans l'espace de 40 ans, on a pu voir une variation assez importante dans les vaches laitières qu'on a sélectionnées. Quand on sélectionne fort, on obtient des résultats dans ce type de gamme de temps.
Le thym est emblématique à plus d'un titre. Faudrait-il alors étudier d'autres plantes de la même façon?
Le problème, c'est effectivement, il n'y a pas énormément de recherches dans ce genre-là qui permettent de travailler sur des durées aussi longues. C'est clair qu'il y a eu dans les années 1940 un travail important sur les trèfles ou un autre polymorphisme génétique. On n'en connaissait pas tant que ça sur les plantes. Et concernant les trèfles, où certains trèfles produisent du cyanure et d'autres pas. Et manifestement, ça aussi, c'est lié avec la température, avec les températures froides. Et peut-être ça vaudrait la peine de refaire la manip pour voir ce que ça a donné aujourd'hui. Malheureusement, c'est encore plus compliqué que de regarder le thym à savoir Londres, parce que là c'est carrément à l'échelle de l'Europe qu'il faut refaire une prospection et je ne sais pas si un laboratoire aura les moyens de faire ça. Effectivement, ça vaut peut-être la peine parce que sur cette production de cyanure par les trèfles, on est à peu près sûr que les froids intenses jouent un rôle sélectif, mais on n'en a pas la preuve, donc ça serait un moyen d'en avoir la preuve et puis ça serait le fait d'avoir un deuxième exemple du même genre, ça montrerait la généralité un peu du phénomène.
Le prix William Skinner Cooper a distingué des travaux menés sur 40 ans, alors disons-le, y a-t-il un lien entre les lauriers du prix et les cordons de la bourse ?
Je suppose que le jury qui nous a donné ce prix a reconnu deux choses. Premièrement, effectivement, c'est la première fois qu'on montre à l'échelle régionale des changements génétiques liés au changement climatique. C'est original comme résultat. Et il y a cet aspect long terme qui est une particularité de cette étude. Je suis sûr que le jury a tenu compte de ces deux aspects. Je pense qu'effectivement, ces questions, elles sont importantes parce qu'il ne s'agit bien sûr pas de savoir tout sur le thym, mais il s'agit de comprendre globalement comment les formes vivantes vont réagir au changement climatique et qu'est-ce qui leur permet d'y arriver ou de ne pas y arriver et quelles sont les conséquences sur la biodiversité de ces réponses que vont avoir les espèces au changement climatique. Donc voilà, je crois qu'effectivement, ces recherches fondamentales, d'abord, elles sont importantes pour qu'on comprenne ce qui nous arrive et puis ensuite, elles peuvent être importantes pour qu'on régule au moins nos actions. Le malheur, c'est qu'effectivement, il y a deux sortes d'applications de la recherche. Il y a des applications de la recherche qui sont directement des applications industrielles et celles-là, comme elles intéressent l'industrie, bah, tout le monde est d'accord pour les financer lourdement. Et il y a des recherches au contraire qui vont nous dire attention, ce qu'on est en train de faire là est dangereux. Et ça, c'est pas du tout bon pour l'industrie en général et du coup, bah, c'est pas ça qui est le mieux financé. Et dans l'état actuel des choses, je pense qu'il y a un déséquilibre assez monstrueux entre les recherches qui permettent de faire des progrès dans le biomédical, dans les biotechnologies, etc. Et puis les recherches qui permettent de comprendre l'environnement et d'essayer d'agir de façon plus intelligente dessus. Et il est clair que ces deux questions qui sont à mon avis d'un ordre d'importance aussi grand l'un que l'autre, les rapports de financement sont d'ordre de 1 à 100, je pense qu'il y aurait un vrai rééquilibrage à faire dans la recherche française.
Retenons en tous les cas que la biodiversité fonctionne comme une bicyclette. Hors de question d'arrêter le processus, par exemple, en se mettant des espèces sous le coude pour, disons, convenance très utile pour notre pharmacopée. À ce propos, nos précieuses gélules sont pour bonne part préparées à partir de plantes dont il ne serait pas tout à fait inutile de connaître leur sensibilité au réchauffement climatique. Or, le nerf de la guerre a fortement tendance à préférer la pharmacopée plutôt que la recherche sur l'influence du réchauffement climatique. Vous avez dit bicyclette, un rapport de 1 à 100. Le moindre cycliste vous recommanderait de rapidement changer de braquet. Le prix William Skinner Cooper, décerné donc par la Société américaine d'écologie, vient à point nommé pour le souligner.
C'était un reportage réalisé par Pascal Marcaggi.